Voilà, bonjour à chacun et chacune. C'est mon privilège ce matin de partager la parole de Dieu. Alors, il y avait deux choses que je voulais faire. D'une part, j'ai eu le privilège d'être avec le groupe des Coréens qui priaient pendant 10 jours, les 30 intercesseurs. Et un après-midi, ils voulaient absolument venir ici, prier dans la salle, prier pour la région, la ville. Mais en étant 30, c'était très difficile d'emmener tout le monde, de plus qu'ils n'avaient pas leur minibus, et ça paraissait vraiment, vraiment difficile. Ils allaient prendre le train à Lille, aller jusqu'à Wavrin. J'ai dit, bon, mais je crois que Dieu entend les prières, peu importe où nous sommes. Mais c'était vraiment leur désir de partager un temps de prière pour cette église et pour cette ville. J'allais distribuer des petits papiers à tout le monde pour lire, mais à mon avis, ça va faire trop. Donc ce que je vais faire, je mettrai les versets ici dessus tout à l'heure, vous pourrez les voir. Mais j'aimerais juste souligner deux ou trois choses que j'ai remarquées en étant écouté. Parce qu'ils ont eu un temps de... Donc j'ai partagé un petit peu ce qu'on faisait, où on en était, tout ça. Et après, ils ont eu un temps de prière. Et après le temps de prière, ils ont eu des paroles, des versets bibliques qui ont été donnés, des prières qui ont suivi. Alors j'en ai deux feuilles, c'est pour ça que ça va faire peut-être un peu trop long de tout lire. Mais j'ai remarqué, si vous voyez dans mes deux feuilles, il y a 4 couleurs. Et de tous ces versets, j'en ai retiré 4 choses. Alors, je commencerai par la première chose, c'est qu'il y avait beaucoup de versets qui étaient donnés sur la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. On a un peu de peine à penser qu'ici, il y a des nations qui vont marcher à notre lumière. Mais oui, c'est une promesse que Dieu nous donne. Que l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Donc ça, c'est pour la lumière. C'est tous des versets qui, dans leur contexte, parlent de la lumière. La deuxième chose que j'en ai retirée, c'est la joie. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Nous sommes dans la joie. Avec chants d'allégresse, nous moissonnerons. Ils reviennent avec allégresse. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Ça a commencé ce matin avec Josette. Il fera de toi sa plus grande joie. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie. Heureux l'homme qui se confie en toi. En jour, il changera... Attendez, il faut que je prenne le contexte là. C'était concernant le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e mois, le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Donc ça parle tout de la joie, de la réjouissance, des cœurs qui se réjouissent. Est-ce que nous nous réjouissons ici dans cette église? Dieu veut nous donner la joie. La troisième chose, c'était plutôt par rapport à la fatigue, par rapport à cette vigueur qui doit être augmentée. Et on sait qu'il y en a beaucoup qui sont fatigués, qui sont languissants à cause de la maladie, à cause des difficultés. Mais il est dit, voilà, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il renouvelle leur force. Il ne se lasse point, il marche, il ne se fatigue point. Donc, est-ce qu'on va prendre ses promesses? L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Quand on est découragé de voir peu de monde, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et c'était très joli parce que quand ils étaient là le dimanche à la collecte, bon, pour un Coréen, on ne met pas juste de l'argent comme ça, on le met dans une enveloppe. Alors, ils cherchaient partout une enveloppe. J'ai dit, prends une feuille A4 et fais-toi une enveloppe. Donc, ils ont fait ça. Ils ont mis leur argent dedans et sur l'enveloppe, j'ai vu qu'ils avaient marqué quelque chose et c'était ce verset. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ça, c'était leur salutation fraternelle. L'Éternel avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as, disait l'Éternel à Gédéon. Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Voilà, donc petit troupeau, ne se fatigue pas, mais sois courageux, parce que l'Éternel est avec toi. Et la dernière chose, le 4e point, c'était le Saint-Esprit qui descend et qui lui dit « Tu es mon fils bien-aimé ». J'ai mis en toi toute mon affection. Et ça, c'est ce que Dieu est en train de faire. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Alors, est-ce que nous soupirons après ces prodiges et ces miracles ? Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Là encore, il y a encore des chaises libres. Amenons des gens. Nous irons avec vous car nous avons appris ce que Dieu est, que Dieu est avec vous. C'est trouvé très beau comme promesse. Dieu est avec vous. Alors c'est pour ça qu'on vient. Et je crois que vendredi soir, Dieu était avec nous et a béni cette soirée. Et que les gens ont vu, ils ont goûté, ils ont vu. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. En vous un esprit. Ouais, oh, je me suis répétée là. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Ça, c'est quand il est parlé dans Ézéchiel des os qui vont revivre. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Donc ça, c'est ce que Dieu va faire au milieu de nous si on est fidèle à ses promesses. Donc je les ai lues très rapidement. Je laisserai les deux feuilles si vous voulez les lire plus à fond. Je pense que ça vaut la peine de s'arrêter sur ces prières parce que si Dieu a permis que sa parole soit donnée sur nous, je crois que c'est aussi pour nous encourager, pour nous fortifier, nous faire aller de l'avant. Donc voilà, c'était les promesses de nos frères coréens, frères et sœurs coréens. Donc voilà, comment faire avec toutes ces promesses? C'est toujours le défi, on peut lire plein de paroles, mais ce matin j'avais envie de vous demander, est-ce que vous croyez que la parole de Dieu est vraie? Est-ce que vous croyez que ça va être une promesse qui va être donnée pour nous et que bientôt on va voir cette salle remplie parce que les gens ont entendu dire, ils ont vu, ils ont goûté et ils savent qu'ici il y a un Dieu qui agit. Et ça c'est une promesse qu'on doit acquérir dans notre cœur. Alors c'est facile de dire ces paroles, mais c'est plus difficile de les vivre. Le jeudi après-midi, on était avec les dames à faire nos travaux manuels, nos pliages. On s'est bien amusé, c'était pas facile, l'origami. Et vous allez en voir du fruit. Hein. Bientôt, vous allez avoir une décoration d'origami dans cette salle. Donc vous verrez qu'on travaille très dur. Et en même temps, on avait partagé la galette des rois et je demandais aux dames, mais qu'est-ce que c'est en fait cette galette des rois? Qu'est-ce que ça veut dire ces rois mages et... Donc on a parlé un petit peu de ça. On a mangé deux bonnes galettes préparées par Annette et Lydie. Et après, j'avais à cœur de partager un petit peu ces trois présents, l'or, l'encens et la myrre, que les rois mages avaient apporté, que les mages ont apporté à Jésus comme présent. Et je dis, mais j'aimerais bien faire un parallèle avec nous aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça signifie? Au lieu de juste manger la galette sans penser, je voulais semer une graine dans les cœurs des femmes qui étaient là, des dames qui étaient là, en disant, mais voilà, il y a quelque chose aujourd'hui qu'on peut faire. Alors, est-ce que vous vous souvenez l'or? Qu'est-ce que c'était? Est-ce que j'ai été entendue ou pas? Qu'est-ce que c'était l'or? La foi, l'encens, l'espérance dans la prière, et la myrrhe, l'amour, le don de soi. Alors j'en ai fait un parallèle comme ça. Alors peut-être que, pour moi j'avais fait un autre sens, j'avais mis l'or, l'amour, et ma mari m'a dit, mais non, on peut le dire autrement. Alors c'est vrai que chacun peut avoir son interprétation, je pense que ce n'est pas gênant. Mais je voulais parler de cette foi, de cette espérance et de cet amour. Et bien sûr, où est-ce qu'on trouve la foi, l'espérance et l'amour demeure, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Où est-ce qu'on trouve ça? 1 Corinthiens 13. Donc, si vous permettez, je vais lire 1 Corinthiens 13 pour nous encourager. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la loi, la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas de mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La plus grande, c'est l'amour. Et je me suis dit, toutes ces paroles que nous avons reçues par la prière, toutes ces choses que les Coréens ont reçues pour cette région, c'est difficile d'un côté de le connaître parfaitement, parce qu'on se dit, mais c'est trop grand. C'est pas pour nous. On est petit, on est qui on est, on a nos faiblesses, on est fatigué. Mais en même temps, je crois que la parole de Dieu est là pour nous fortifier, nous faire du bien. Et donc, je vais commencer peut-être par la foi. Donc, la foi, j'ai regardé dans le dictionnaire, c'était marqué confiance, croyance. Donc, cette confiance et cette croyance, c'est notre foi. Mais notre foi en quoi? Alors, je vais vous faire un peu participer. Moi, je suis très nulle quand on me demande un verset de la Bible. Je vous avoue que j'ai beaucoup de peine, des fois, à savoir où ça se trouve. Alors, il y a des choses que je connais, mais où est-ce que ça se trouve? Mais on va essayer aujourd'hui d'activer notre réflexion. Et si vous connaissez le verset et le passage, ne vous condamnez pas parce que je vous dis, moi, je suis nulle. On me fait ça, j'aime pas. Mais je le fais avec beaucoup d'affection et c'est pas du tout... on est petit nombre et je pense que c'est interactif, donc n'hésitez pas. Donc, comment être agréable à Dieu? Il y a un verset qui nous dit comment être agréable à Dieu. Comment? Or, sans, Hébreux 11, très bien, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, Hébreux 11, 6. Donc voilà, or sans la foi, on ne peut pas croire en Dieu. Donc notre croyance, dans quoi va-t-on la mettre? Je pense que dans ce monde, beaucoup de gens croient à quelque chose. Ils croient au travail, à l'argent, au plaisir, à l'amour, à leurs conjoints, ils croient dans leurs enfants. Mais combien de fois on est déçu par tout ça? Parce que le monde ne peut pas nous donner quelque chose de suffisant. Et il n'y a qu'une chose dans laquelle on peut mettre notre confiance, c'est notre foi en Dieu. Croire que Dieu existe. Ça, c'est la première chose. Deuxième question. Qu'est-ce qui triomphe du monde? Notre foi, un verset. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà. Comment triompher de ce monde qui nous envahit? C'est difficile, hein? Il faut le dire. On est attaqué de toutes parts parce que le monde nous propose. Amen. Avec Dieu, on n'est jamais déçu parce qu'on triomphe des choses qui sont autour de nous et qui nous font mal, qui nous emprisonnent, qui nous dirigent dans une autre direction. Comment triompher de ce monde? Comment nos jeunes peuvent triompher de ce monde? C'est par la foi. Et sans la foi, c'est très dur pour un jeune de demeurer. Donc prions pour que nos jeunes augmentent, leur foi augmente, pour qu'ils puissent triompher du monde. Voilà, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Comment obtenir la paix avec Dieu? Romains 5, 1. Étant donc justifié, par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Formidable, étant justifié par la foi. Ce n'est pas notre propre justice, c'est la justice dans notre foi en Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous trouble ce matin? Est-ce qu'on n'a pas la paix? Allez par la foi devant Dieu et demandez la paix de Dieu. Que pouvons-nous obtenir avec la foi qui n'a pas de fin? Meilleur qu'un CDI, que pouvons-nous obtenir par la foi? La vie éternelle. Hein? J'ai dit un CVE. On va mettre une autre chose. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ça, c'est le but ultime de cette foi, d'avoir la vie éternelle. Et ça commence, on dit souvent, la vie éternelle ne commence pas le moment où on meurt. Mais cette vie éternelle, elle se prépare sur cette terre. On se réjouit d'être vers le Seigneur et on doit se préparer. Or, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc tout ça, c'est fantastique. Tout ça, c'est positif. Vous ne trouvez pas ? La paix, la justification, la vie éternelle, c'est formidable. Mais il y a autre chose. Notre foi mise à l'épreuve. Parce qu'on sait que c'est pas juste facile. Et donc il faut toujours avoir une balance entre le plus et le moins et trouver la balance. 1 Pierre 1, 6 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Ça, c'est toujours formidable. On a un héritage dans les cieux qui ne peut se corrompre. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Ça va toujours. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans l'avoir encore vu, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Et donc là, il est bien dit que la foi, elle est éprouvée. Elle est éprouvée comme cet or qui est périssable. D'un côté, on met de l'or dans le feu, elle va ressortir encore plus forte, mais ça reste du matériel. Mais notre foi, elle est là, éprouvée, mais parce qu'elle veut nous faire grandir. Ces épreuves nous font grandir aussi dans cette connaissance de Dieu. Et donc, ne nous décourageons pas. On a la foi, il y a les épreuves, mais l'épreuve de notre foi nous permet vraiment à un résultat de la louange et la gloire et l'honneur pour Jésus. Et donc ça, c'est formidable parce qu'avec Dieu, il n'y a jamais de négatif, je dirais, puisque l'épreuve de notre foi produit quelque chose de bon en nous. Et donc si on est éprouvé en ce moment, retournons simplement à Dieu et recevons sa paix. Donc ça, c'est pour la foi. Maintenant, on va passer à l'espérance. Alors l'espérance, c'est formidable, hein, on peut espérer en plein de choses. J'espère qu'un jour mon prince viendra. Non, je l'ai déjà. C'est plus une espérance, je l'ai eu. Je l'ai eu. C'est plus une Il est dit, hein, ce qu'on espère, ce qu'on a eu, ce qu'on voit n'est plus espérance. Donc, mon prince est déjà venu, je ne peux pas encore espérer. Je suis satisfaite. Voilà, compter sûr. L'espérance, c'est compter sûr, s'attendre à quelque chose. Donc, nous nous glorifions même dans les tribulations, même l'espérance, elle est reprise. Dans Romains 5, 5, il est dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Mais, or, l'espérance, est-ce qu'elle vous trompe ? L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et ça, c'est formidable, parce que là encore, l'espérance, on la façonne. Elle est façonnée dans les afflictions qui produisent la persévérance qui produit la victoire dans l'épreuve, et la victoire, l'espérance. Donc là encore, cette espérance, on l'a parce qu'on a passé des fois des difficultés très fortes. Je parlais avec Odette tout à l'heure, et c'est vrai qu'elle a vécu des choses difficiles, mais elle a cette espérance parce qu'elle a vécu la main de Dieu sur sa vie. Et je crois que chacun de nous, il y a des situations où on peut dire, voilà, c'était tellement dur, ça a été une vraie affliction, c'était une vraie épreuve. Mais ça m'a donné cette espérance en Dieu parce qu'il ne m'abandonne pas. Et donc que cette espérance nous anime aussi ce matin et qu'on garde vraiment les yeux fixés vers Jésus qui est la source de notre vie. Et c'est bien parce qu'il dit que l'Esprit de Dieu est répandu dans nos cœurs. C'est cet Esprit qui est le consolateur aussi lorsqu'on est dans l'affliction. Est-ce qu'on espère avec espérance ou désespoir ? J'ai dit, on peut espérer. Tout le monde dit, ah mais j'espère que... J'espère que tu auras une bonne année, Rémi. J'espère que tu seras en bonne santé. J'espère. Mais est-ce qu'on a vraiment cette espérance positive Ou est-ce qu'on a une espérance qui est un peu dans le désespoir, hein? On se dit, ouais. J'espère, mais bon, j'espère qu'il pleuvra pas demain, parce que bon, mais c'est pas toujours très positif quand on espère. Mais là, il y a un beau verset dans Romains 8, 24. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, Romains 8, 24? Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et ça aussi, cette espérance, on peut l'avoir positive. Parce que même quand on ne sait pas comment demander, quand on est vraiment travaillé, on se dit, mais au secours, on ne sait pas que faire. Cet esprit qui agit en nous par des soupirs inexprimables peut nous aider à prier et va prier même pour nous. Donc on peut vraiment espérer dans ce que Dieu veut faire dans nos vies. Parce qu'il y a une espérance qui ne trompe pas. Et cet esprit de Dieu en nous fait vraiment que nous allons avoir une victoire. Parce que lui ne nous abandonne pas. Voilà. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Comment posséder l'espérance? Voilà. Comment posséder l'espérance? Romains 15, 4. Comment est-ce qu'on peut posséder cette espérance? Avec quoi pouvons-nous nourrir notre espérance? Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc cette espérance, elle n'est pas basée sur une fantaisie. Hein, des fois, on a un beau catalogue, on se dit, tiens, j'aimerais tellement, j'espère que je vais avoir cette belle robe, ou j'aimerais bien avoir cette belle voiture. Ça, c'est une espérance qu'on se dit, ben tiens, mais c'est sûr. Mais non, là, elle est bâtie par la conviction de l'Écriture. La parole de Dieu est là pour nous donner vraiment, pour qu'on puisse posséder vraiment une espérance qui ne va pas être juste fauchée par n'importe quelle autre chose qui vient. Mais elle dit, là, afin que par la patience et par la consolation que donne l'Écriture, nous possédions l'espérance. La consolation dans l'Écriture. Et donc ça, c'est le seul livre avec lequel on peut aller si on est troublé et dire, mais comment est-ce que je peux avoir l'espérance dans cette situation ? Quelle est la promesse de Dieu? La promesse de Dieu ne va pas changer. On peut des fois l'interpréter d'une manière ou d'une autre, mais avec l'Esprit de Dieu, ça ne va pas changer. Dieu est fidèle dans ses promesses et il va nous le donner. Et donc, on peut posséder l'espérance en connaissant de plus en plus la parole de Dieu et en se basant vraiment sur cette parole. Voilà notre sécurité. Est-ce que vous avez besoin d'une bouée de sauvetage? Tous? On a tous besoin d'une bouée de sauvetage. Mais il y a meilleur qu'une bouée de sauvetage, il y a une ancre sûre et solide. Qu'est-ce que c'est? Hébreux 6, 19, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Je pensais, avec ce verset, je pensais à Pierre, qui était dans sa barque, et tout d'un coup, il voit une forme arriver sur l'eau, il dit, oh là là, un fantôme. Mais ce n'était pas un fantôme, c'était Jésus qui marchait sur les eaux. Et Jésus qui dit à Pierre, allez Pierre, sors de ton bateau, viens, marche vers moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait hein, si on avait été dans la position de Pierre. Mais je me disais, dans ce bateau, il y avait l'ancre, il devait savoir comment utiliser une ancre pour maintenir son bateau solide, il connaissait la mer, mais il a dû sortir, il a dû aller au-devant de Jésus. Mais il devait avoir une forte espérance. Et on voit que même sa foi a été ébranlée, mais Jésus était là, il l'a accueilli. Et pour nous, c'est pareil. Quand on titube un peu, quand on perd l'espérance, est-ce qu'on va jeter notre ancre? Cette ancre en Jésus. C'est lui notre ancre. C'est lui qui va nous donner la sécurité, qui va nous aider à demeurer ferme quand on n'arrive plus à tenir, quand on est troublé, quand on est tenté. Hein, délivre-nous de la tentation. On le prie tellement souvent dans le Notre Père. Mais cette tentation, on va jeter l'ancre parce que Jésus est notre ancre sûre et solide pour notre âme. Et c'est avec lui qu'on va vraiment tenir ferme. Voilà, une dernière chose pour l'espérance, se reposer sur Dieu lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Hein? Il y a un petit problème dans mon papier. Oui, c'est ça. Comment se reposer sur Dieu? Ça nous repose. C'est que votre foi, ça c'est 1 Pierre 1:21, que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc notre espérance, la seule chose qui est une base solide, c'est Dieu. C'est cette espérance-là qui va nous aider à être en repos. Donc quand on est troublé, encore là, on peut se reposer sur Dieu pour nous aider à franchir les caps difficiles de nos vies. Voilà pour l'espérance. Donc la dernière chose, c'est l'amour. Alors l'amour, je me dis, on peut dire tellement de choses. Tellement, tellement de versets, tellement de choses. Mais le fondement de notre foi et de notre espérance, c'est quoi? C'est basé sur quoi? C'est basé sur l'amour de Dieu. Jean 3,16. J'aimerais que ça soit Claude qui me dit Jean 3,16. Jean 3,16, fais-moi plaisir.
Il a donné son fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle.
Voilà, Claude me disait qu'il aimait beaucoup ce verset vendredi soir. Alors voilà. Car Dieu a tant aimé le monde. Formidable. Tous les enfants de l'école du dimanche connaissent ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, notre foi, notre espérance est dans cette croyance de Dieu qui nous a fermis. Mais il y a une réaction en chaîne. L'amour, c'est pas seulement Dieu m'aime, tout va bien. Quelle est cette réaction en chaîne? Lui nous aime, mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aimer les uns les autres, ce don de soi dans l'amour. Voilà. Voilà, aimer son prochain comme soi-même. 1 Jean 3,16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et donc l'amour de Dieu, c'est aussi ce partage d'amour avec les autres. Je crois que c'est... On ne peut pas juste dire, voilà, Dieu m'aime et après je ferme ma porte. Non. Et ça, c'est le plus dur, je dirais, que d'ouvrir notre porte aux voisins et à ceux qui nous titillent un peu et à ceux qui... Voilà, ça c'est plus difficile. C'est un ordre de Jésus. Voilà, demeurer. Alors, j'avais marqué une réponse à son amour. Jean 14,15, si vous m'aimez, qu'est-ce qu'on doit faire? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, il y a quand même un ordre, il y a quand même un encouragement, je dirais, mais c'est un ordre. Hein. Demeurez en moi, gardez mes commandements. Ce n'est pas juste facile, il faut y travailler. Ce n'est pas juste donner, voilà, je me lève le matin, tout va bien, je vais aimer mon voisin. Non, garder mes commandements. Et des fois, je me dis, mais Seigneur, pourquoi je réagis comme ça? Des fois, moi, je réagis avec, quand je suis au magasin, puis quelqu'un m'énerve, je réagis. Ma fille, elle m'a dit un jour, mais maman. Et je me suis sentie reprise. Mais j'ai dit, mais elle avait tort. Mais moi, j'avais tort par ma réaction. Elle avait tort, certainement, mais moi, j'avais tort envers elle. Et je pense que, quelque part, on doit y travailler à cet amour. Hein. Ce n'est pas un amour facile. Quel est le résultat de tout ça? Quel est ce résultat d'amour? Demeurer dans son amour rend heureux. Jean 15, 10 à 13. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Voilà, est-ce que vous voulez une joie parfaite cette semaine?
Ouais.
Alors je vous avertis. Je vous avertis, vous allez rentrer chez vous et la première chose à faire, c'est de lutter contre l'ennemi qui va vous rendre mécontent parce que mes enfants n'ont pas rangé le petit déjeuner, parce qu'ils sont en pyjama, parce que voilà, je rentre dans une maison où il y a les chaussures qui traînent et le repas n'est pas fait et puis... Voilà. Combien de fois je me rends compte que ma joie n'est pas parfaite parce que j'ai pas veillé? Et c'est triste d'un côté, parce que ça m'attriste de voir que j'arrive pas à me réjouir alors que, voilà, je devrais avoir une joie parfaite. Donc là encore, je vante pas la joie parfaite gratuite bon marché. Mais je veux proclamer cette joie parfaite sur chacun d'entre nous. Parce que ça vient de Dieu et parce que Dieu, c'est lui qui veut faire ce travail en nous. Mais sachant écouter, quand on commence à devenir un peu énervé, et mon mari il a le droit de me dire aujourd'hui, hey, t'as dit ça, donc attention, hein, il faudra qu'il me reprenne. Hein. Je lui en donne l'autorisation. Mais je suis sincère, quoi. C'est pas facile. La joie parfaite, c'est pas facile. Mais on doit veiller. Donc on verra. Je vous dirai la semaine prochaine, hein, si j'ai reçu un coup de bâton ou pas. Donc dernière chose, tout vient de Dieu. 1 Jean 4:10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Tout se résume à ça. C'est pas moi qui ai couru après Dieu, mais c'est Dieu qui m'a aimé en premier. Et c'est Dieu qui a pourvu au sacrifice en Jésus pour pardonner mes péchés. C'est pour ça que je peux vivre ces choses en Christ. Sans Christ, on ne peut rien faire. Mais on doit se souvenir que c'est lui qui nous a aimés en premier. Et c'est pour ça que ça vaut la peine de lui donner vraiment notre amour en retour. Et donc la foi, l'espérance, l'amour demeurent avec nous. Et j'aimerais terminer par un dernier verset pour conclure ça, dans Éphésiens 3:17-19, qui dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre que avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Que Dieu soit avec vous cette semaine et vous bénisse richement.